Fichier 2.
Le chien guide, la prunelle de mes yeux. Chapitre 1. Un chien guide, pour qui, pourquoi ? Se déplacer seul quand on est déficient visuel est extrêmement anxiogène. Et d'autant plus aujourd'hui, avec l'apparition des nombreux engins et voitures électriques qui surgissent sans bruit. L'apport du chien guide est inestimable, non seulement pour se déplacer en toute sécurité, mais aussi pour retrouver le plaisir de sortir, reprendre confiance en soi et créer de nouveaux liens. Avec la participation experte de Michel Rossetti, vice-président de la Fédération française des associations Chiens guides d'aveugles, FFAC, et Charlotte Capelle, responsable de l'école de Normandie des centres Paul Corteville.
Description des illustrations. Dans une rue pavée du Vieux-Lille, parmi les passants, un monsieur d'une soixantaine d'années, portant une barbe blanche, un jean, une casquette et des lunettes noires, précédé par un labrador noir qu'il tient au harnais, s'avance vers nous d'un pas décidé sur le sol encore brillant de pluie, la main dans la poche. Au sommaire de ce chapitre,
le chien guide, un soutien irremplaçable. Qui peut faire la demande d'un chien guide ? Les différents handicaps visuels, l'évaluation des demandes, les conditions pour bénéficier d'un chien guide, comment obtenir un chien guide, l'indispensable instructeur en locomotion.
Témoignage. Elisabeth Lee et son chien Fadja.
On n'en a pas conscience quand on a une bonne vue, mais nos yeux sont en dialogue constant avec notre cerveau, l'informant en permanence de tout ce qui se trouve devant et autour de nous. C'est ainsi que nous évitons les obstacles, repérons notre trajet, nous arrêtons au surgissement d'un vélo. La personne déficiente visuelle peut certes se fier à ses autres sens, comme l'ouïe et le toucher, par le biais d'une canne blanche. Mais c'est une marche anxiogène, confie Pierre-Marie Micheli, qui est non-voyant et maître de chien guide. Voir le témoignage page 88, chapitre 5. On ne sait pas ce qu'il y a devant soi. Un trou, une voiture mal garée, un poteau.
Avec le développement des pistes cyclables et des nouveaux moyens de locomotion silencieux, trottinettes, gyropodes, etc., se déplacer en toute sécurité est devenu un véritable défi quand la vue fait défaut.
Le chien guide, un soutien irremplaçable. Le chien guide est une aide sans pareil pour affronter la véritable jungle qu'est devenue la ville. Il a appris à repérer tout ce qui pourrait entraver le passage de son maître, à slalomer entre les passants sans perdre le cap, à s'arrêter pour signaler une marche, un bord de trottoir, de quai, de métro ou de gare. Ayant la taille de son maître en tête, il est même capable de lui éviter, par exemple, de se heurter à une branche d'arbre. S'il ne décide ni du trajet ni du moment opportun pour traverser la route, il sait parfaitement trouver le passage piéton, le prochain arrêt de bus ou encore une boîte aux lettres, un distributeur de billets, une place libre dans le tram. Pour la personne malvoyante ou non-voyante, le gain en matière d'autonomie, de sécurité, de confort et de plaisir dans les déplacements est immense.
Le chien guide est un complice attentif qui a mémorisé les trajets et sait retrouver facilement le chemin de la maison.
Il est aussi un précieux compagnon, auprès duquel le maître va reprendre de l'assurance dans sa vie quotidienne et confiance en lui en société. Car le chien guide dispose d'un fort capital sympathie. Il permet d'entrer plus facilement en contact avec le monde extérieur. Dans les magasins, les commerçants disent « bonjour d'abord à mon chien », plaisante Pierre-Marie Micheli. Et quand on me dit « mais qu'est-ce qu'il est beau », je demande si c'est de moi dont on parle. Ça amuse les gens et les met à l'aise. Qui peut faire la demande d'un chien guide ? Les chiens guides peuvent être remis à des personnes souffrant de différents handicaps visuels. Les tests ophtalmologiques permettent de mesurer la gravité de ces atteintes à deux niveaux. Premièrement, ils servent à contrôler l'acuité visuelle, c'est-à-dire la capacité de la personne à distinguer à plus ou moins grande distance les formes, les détails, les contrastes, les couleurs. Et deuxièmement, ils permettent d'évaluer le champ visuel, c'est-à-dire l'amplitude de la zone que la personne perçoit en dehors de ce qu'elle fixe. Lorsque la vision n'est pas altérée, L'œil voit ce qui est sur les côtés, au-dessus et en dessous de ce qu'il regarde. Cette vision panoramique est indispensable pour repérer à temps un vélo qui surgit, une flaque sur la chaussée ou une branche d'arbre un peu basse. Ces deux aspects de la vision sont indépendants. Une personne peut avoir une bonne acuité visuelle, ce qui lui permet de lire, mais un champ visuel rétréci, comme si elle regardait à travers un trou de serrure. Ou au contraire, ne rien voir au centre, mais avoir une vision nette sur les côtés, ce qui constitue dans les deux cas un véritable handicap pour se déplacer.
On parle certes de chiens guides d'aveugles, mais ceux-ci peuvent également être remis à des personnes atteintes de différents types de déficiences visuelles, réduction du champ visuel ou de l'acuité.
Encadrer. Pour aller plus loin. Les différents handicaps visuels, liste non exhaustive. L'amétropie, dont la forme la plus connue est la myopie. Elle se caractérise par une vision floue à partir d'une certaine distance et handicapante à courte distance. Le syndrome Duchère est une maladie qui associe une surdité et des troubles de la vision dus à un mauvais fonctionnement de la rétine. Rétinite pigmentaire. Un glaucome est une maladie dégénérative qui entraîne un rétrécissement progressif du champ visuel. La personne ne voit plus sur les côtés, mais parfois très bien dans l'îlot de vision qui lui reste. La rétinite pigmentaire débute par une diminution de la vision à la tombée de la nuit. Peu à peu, le champ visuel se rétrécit, entraînant une vision en trou de serrure. L'amaurose congénitale de Leber est une maladie de la rétine d'origine génétique, caractérisée par une dégénérescence et une perte progressive des photorécepteurs de la rétine dès les premiers mois de vie. La maladie de Stargardt est une affection de l'œil liée à une altération progressive de la région centrale de la rétine. Elle se manifeste chez l'enfant par une baisse importante de l'acuité visuelle des deux yeux.
Description des illustrations. Charlène, une jeune femme brune d'une quarantaine d'années, vêtue d'un imperméable léopard et coiffée d'une queue de cheval, longe un quai de la gare de Lille-Flandre en tenant au harnais son labrador sable Obélix. Nous la voyons de profil, depuis l'autre côté des rails. Son chien la tient à bonne distance du bord du quai. Isabelle, en jeans et blouson noir à capuche bordée de fourrure, portant des lunettes noires et un bonnet violet, embrasse sur la truffe son chien Magnum, un labrador sable, qui tend son museau vers elle. Elle est appuyée contre la digue en ciment de la promenade des Anglais à Nice.
L'évaluation des demandes. Il faut deux longues années pour former un chien au métier si exigeant de guide. Aussi bénéficier d'un chien guide ne va pas de soi. Il faut que la demande soit motivée, que le chien constitue un véritable plus dans la vie de la personne, que celle-ci soit apte à en prendre soin, que l'entourage soit susceptible de lui faire bon accueil. Toutes choses qui sont évaluées à réception de la demande par les équipes pluridisciplinaires des écoles de chiens guides. Elles étudient les besoins de la personne et le gain d'autonomie que le chien va lui apporter, explique Michel Rossetti. Si elle a besoin du chien uniquement pour aller acheter son pain, mais que cela représente un vrai gain d'autonomie, nous pouvons étudier la demande. Alors qu'une personne très active et déjà autonome en aura peut-être moins besoin.
Nous avons rencontré le cas de personnes parfaitement autonomes, mais qui ne sortaient pas de chez elles car elles avaient un problème avec l'image de la canne blanche.
Le chien les a aidées à retrouver le chemin de l'extérieur et une vie sociale plus épanouie. Une étude psychologique est également réalisée par l'école de chiens guides lors de l'examen du dossier, en vue d'évaluer le niveau d'attente de la personne. Il ne faut pas qu'elle s'imagine que le chien va tout résoudre. Il saura, par exemple, trouver une porte d'accès au train. Mais le maître doit être en capacité de se débrouiller dans une gare et de demander de l'aide pour trouver son quai. Encadrer. Pour aller plus loin. Les conditions pour bénéficier d'un chien guide. Être atteint de malvoyance ou de cécité. Avoir plus de 12 ans pour les chiens remis par la Fondation Frédéric Gaillane et plus de 18 ans pour les chiens remis par les autres écoles. Accepter de rencontrer l'équipe pluridisciplinaire, instructeur en locomotion, psychologue, éducateur de chiens guides, de l'école auprès de laquelle la demande est faite. Effectuer un stage de 15 jours avec un éducateur diplômé au centre d'éducation et à domicile. important. Savoir se déplacer à la canne ou même sans canne, avoir une bonne appréhension de son environnement, de bons repères, sont des prérequis absolus. C'est pourquoi les écoles de chiens guides ont des instructeurs en locomotion qui apprennent aux personnes à se déplacer à la canne ou à passer de la canne au chien. Avoir un instructeur en locomotion fait d'ailleurs partie des critères pour intégrer la FFAC en tant qu'association de chiens guides. Infographie intitulée « Comment obtenir un chien guide ?» Le schéma montre qu'il faut d'abord constituer un dossier auprès de l'école de chien guide la plus proche. Ce dossier est examiné. S'il est accepté, un stage de déplacement à la canne peut être organisé si nécessaire. Plusieurs chiens guides en cours d'éducation sont ensuite présentés à la personne qui en fait la demande. On lui attribue alors un chien. Puis le demandeur fait un stage de 15 jours pour apprendre à se déplacer et vivre avec son nouveau compagnon. Il passe une semaine avec son chien dans l'école de chiens guides et une semaine avec son chien chez lui. Au cours de cette dernière semaine, un éducateur de l'école vient tous les jours pour aider à repérer les trajets du quotidien. Le chien peut ensuite être remis gratuitement à son nouveau maître. L'indispensable instructeur en locomotion. Le rôle de l'instructeur en locomotion, aujourd'hui le titre est « Instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles », est de permettre à la personne de se déplacer en sécurité et en toute autonomie avec une canne, un critère obligatoire pour bénéficier d'un chien guide. On utilise pour cela des techniques de locomotion qu'on adapte à la personne en fonction de sa pathologie, de ses possibilités visuelles, de ses besoins, explique Charlotte Capelle. Ces techniques font appel aux différents sens, le toucher, l'ouïe, mais aussi la vue pour les malvoyants, ainsi que le sens des masses. C'est ce que l'on appelle le sens kinesthésique ou la kinesthésie. Ce sens est important pour se rendre compte que le corps est en mouvement, poursuit Charlotte Capelle. Par exemple, que l'on tourne à gauche ou à droite, que l'on monte ou que l'on descend. Avec son instructeur, la personne apprend également à organiser son trajet, à trouver où et quand traverser la route, à en donner l'ordre au chien au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Si la personne se déplace déjà de façon autonome, le travail en locomotion sera basé sur la transition de la canne au chien. Sur ses trajets habituels, la personne aura pris des repères avec la canne, ce qu'on appelle le toucher de canne, qui peuvent être une plaque d'égout, des pavés ou un poteau. Elle ne retrouvera pas tous ses repères avec le chien guide qui, lui, l'aidera à éviter les poteaux. Il faudra donc en trouver de nouveaux. L'instructeur va donc refaire le parcours avec la personne, également pour vérifier que le trajet est praticable avec un chien. Ce travail se fait en parallèle de l'éducation du chien lors de séances d'une demi-journée, avec des pauses entre les séances pour que la personne exerce seule sa pratique. Le nombre de séances nécessaires est très variable d'une personne à l'autre. Elles peuvent s'étendre sur plusieurs mois.
Description des illustrations. Michel, un homme entre 60 et 70 ans, cheveux blancs et portant des lunettes noires et un kawaï noir, longe les barrières d'une tranchée creusée dans le trottoir, côté chaussée, dans une rue de Nice. Il est précédé par son chien guide Patch, un labrador noir, qu'il tient au harnais et qui le guide sur le passage étroit entre la barrière et les vitrines de la rue. Suzanne, une femme de 70 ans environ, en doudoune rouge, portant des lunettes fumées et un sac noir en bandoulière, se tient debout à un arrêt de bus dans une rue de Nice. Son chien guide Magic, un caniche royal, est sagement assis à côté d'elle. En arrière-plan, on aperçoit deux plans du réseau des transports publics de la ville. On voit à nouveau cette femme, cette fois accroupie sur le trottoir de la promenade des Anglais, à Nice, devant son caniche royal qui est assis. Elle le tient affectueusement par le cou en souriant. On les voit tous les deux de profil, se faisant face, dans une lumière dorée de fin de journée. Toujours cette même femme, cette fois assise dans le bus, sur le trajet retour vers chez elle. Elle porte un masque sanitaire bleu. Elle flatte les joues de son caniche royal, qui est sagement assis à ses pieds, les yeux tournés vers elle. En arrière-plan, on aperçoit une femme en blouson noir, de dos, et quelques autres passagers. Témoignage. Elisabeth Lee et son chien Fadja. Atteinte d'une rétinite pigmentaire à l'âge adulte, Elizabeth Lee perd progressivement la vue. À 43 ans, alors qu'elle ne sort quasiment plus de chez elle, elle fait une demande de chien guide. On lui propose Fadja, une petite chienne labrador noire, pour qui elle a un vrai coup de foudre et qui lui redonne des ailes.
Je l'appelais mon ombre noire.
J'ai commencé à perdre la vue à l'âge de 36 ans. Puis quand j'ai perdu le petit champ de vision qui me restait, j'ai arrêté de travailler. Et ça a été le début de la fin. Je restais cloîtrée chez moi. Quand j'ai commencé à perdre la vue, ma fille de 6 ans insistait pour que je prenne un chien. Mais je me suis décidée suite à un décès dans la famille. Un véritable électrochoc à l'idée de ce qui se passerait si je perdais mon conjoint. J'ai fait ma demande auprès de l'Association de chiens guides d'aveugles d'Île-de-France, qui m'a présenté plusieurs chiens. J'ai eu le coup de foudre avec une petite labrador noire, Fadja, toute frétillante. Fadja a été le moteur de ma libération. J'ai senti des ailes se déployer dans mon dos. J'avais confiance en elle, et elle aimait travailler. Dès que je lui mettais le harnais, elle remuait la queue. Nous partions nous promener dans tout Paris. Je l'appelais mon ombre noire, car elle me suivait partout. Elle me donnait un petit coup de truffe quand elle voulait quelque chose. Elle était joyeuse et démonstrative. C'est son plaisir à travailler qui m'a donné cet élan de vouloir lui faire plaisir. J'ai repris le travail, mon indépendance, et recommencé à faire attention à moi. Peu après sa mise à la retraite, elle est tombée malade. Je l'ai accompagnée jusqu'au bout, comme elle m'avait accompagnée toute sa vie. Neskik, mon nouveau chien, est l'opposé de Fadja. C'est un véritable petit poney de 40 kilos, un contemplatif. C'est autre chose, mais c'est aussi une belle histoire.
Description des illustrations. Aquarelle représentant Elizabeth Lee, assise sur une chaise, regardant en souriant son labrador noir Fadja, couché à ses pieds. Le chien guide, la prunelle de mes yeux, fin du chapitre 1.